les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
C'est au chapitre 10 du livre 1 de son ouvrage « Des révolutions des sphères célestes », publié l'année de sa mort en 1543, que Copernic proposait un nouvel ordonnancement du monde dans lequel le Soleil, et non plus la Terre, occupait le centre de l'univers. Mais qui était au juste l'auteur de cette théorie scientifique révolutionnaire ? En 1978, pour une série de trois volets de l'émission « Un homme, une ville », Nicolas Skrotsky enquêtait sur le personnage à Cracovie, ville où il fit ses études à l'université à la toute fin du XVe siècle. En compagnie de l'historien de l'astronomie Jean-Pierre Verdet, il éclairait à la fois le contexte dans lequel Copernic mit à jour cette théorie renversante et l'histoire de la ville. Un homme, une ville, sur les traces de Copernic à Cracovie, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 31 juillet 1978.
Un homme, une ville. Rarement un mariage aussi somptueux et bénéfique n'aura été accompli qu'entre Nicolas Copernic, chanoine, astronome, médecin, économiste, et la ville de Cracovie, capitale des rois polonais. En compagnie de l'astronome français Jean-Pierre Verdet, nous sommes allés chercher à Cracovie les traces de ce passé prestigieux de la fin du XVe siècle et du début du XVIe, où bouillonnaient les idées de la Renaissance. Ce sont ces idées qui ont permis, pour la première fois dans l'histoire, de faire dire à un homme « La Terre n'est pas au centre du monde. La Terre tourne autour du Soleil avec d'autres planètes. » Au cours de cette première émission, nous allons évoquer ce qu'était la vie à Cracovie avant que Copernic n'y arrive faire ses études universitaires. La ville de Cracovie est née sur les bords de la Vistule. À l'origine, on trouve toujours une légende perpétuée aujourd'hui au pied du château de Wawel par un dragon qui crache du feu à heure régulière. Mais pourquoi ? C'est ce que nous raconte l'historien M. Pléjat.
Cracovie, comme presque toute une vieille ville, a aussi ses vieilles légendes. Cracovie, en polonais Kraków, c'est un adjectif qu'on peut supposer formé d'un nom propre, Krak. Kraków veut dire en polonais des Kraks appartenant au Krak. La légende fait de ce Krak le fondateur de la ville de Cracovie. Et lorsqu'il fallait, pour un fondateur d'une ville, de faire des choses magnifiques, il a tué un dragon. Dans une cave qui se trouve jusqu'à aujourd'hui dans la colline sur laquelle est fondé le château royal, habitait, selon cette légende, un énorme dragon, autant plus dangereux qu'on n'a pas pu le tuer ni avec une hache, ni avec un glaive, ni avec une lance. Et il dévorait les hommes, aussi les vaches, etc. Et les habitants de la ville était obligé de lui fournir chaque jour deux moutons afin qu'il ne mange pas les hommes. C'était déjà ennuyant pour un certain temps et le roi, le fondateur de la ville, a conçu l'idée de tuer les dragons. Et il lui a fait jeter deux peaux de moutons, pas le mouton, tous les moutons, mais les peaux dans lesquelles se trouvaient le soufre. Et le dragon l'a dévoré, puis il a pris soif. Il a couru vers la Vistule, qui se trouve tout près de, son, de sa grotte, et il a bu tellement qu'il créva, enfin. Alors, c'est la légende des dragons de Cracovie.
Mais Nicolas Copernic n'est pas né à Cracovie. Où donc s'est noué son destin pendant que s'épanouissait dans cette ville la civilisation qui allait le former? Monsieur Verdet.
Copernic est né le 19 février 1473 dans une très jolie petite ville de Pologne qui est Toruń. C'est une ville hanséatique qui est sur les bords de la Vistule. Dans une famille de gros commerçants. Il est le cadet d'une famille de quatre enfants. Il se retrouve orphelin à l'âge de 10 ans et il va être élevé, enfin, entièrement pris en charge par son oncle qui deviendra évêque de Warmii. Et on peut déjà dire que certainement c'est grâce à son oncle que Copernic est devenu un grand astronome. Sa famille était originaire de Silésie. Vers 1400, on pense que la famille de Copernic a quitté le village natal, qui est le village de Copernic. C'était assez courant à l'époque, quand on quittait un village, d'emmener le nom du village avec soi. Et elle a émigré vers Cracovie, qui déjà était la grande ville de Pologne. Et puis en 1454, nouveau départ de la famille Copernic pour Toruń. En 1454, c'est le début de la guerre, de ce qu'on appelle la guerre de 13 ans des Polonais et de l'Union prussienne contre les chevaliers teutoniques. Donc après, disons, deux émigrations familiales, le sort fait que Copernic va naître à Toruń, qu'il sera donc orphelin à 10 ans, comme je vous disais tout à l'heure, et qui va évidemment y faire ses études primaires. C'est-à-dire qu'il va y apprendre à lire, à écrire, à compter, et évidemment quand on dit apprendre à lire, en réalité, c'est qu'il va apprendre le latin.
Et alors donc, ses premières études ont été poursuivies à Toruń, et ce n'est que plus tard qu'il est allé à Cracovie.
C'est plus tard qu'il arrive à Cracovie, en 1491.
Mais on peut se poser une question, voilà 500 ans que Copernic est né, et est-ce qu'il y a encore des choses à découvrir? Comment peut-on encore travailler sur Copernic? Sur l'œuvre de Copernic?
Sur l'œuvre de Copernic. Ben écoutez, effectivement, Copernic est né il y a plus de 500 ans. Et donc il est mort il y a plus de 400 ans. Et il a édité son grand ouvrage d'astronomie, qui est le De Revolutionibus, en 1543, qui est d'ailleurs l'année de sa mort. Et bien, aussi incroyable que ça puisse paraître, un livre aussi fondamental pour la pensée occidentale n'a jamais été traduit en français. Et le travail de notre équipe, c'est de traduire l'œuvre astronomique de Copernic en français. Essentiellement donc son grand ouvrage et quelques ouvrages mineurs, aussi bien astronomiques qu'économiques
ou scientifiques en général.
Scientifiques en général.
Nous sommes sur la place du Vieux Marché. C'est une place assez étonnante parce qu'il y a beaucoup de monde et qu'il y a des pigeons. Et on se croirait peut-être en Italie dans une certaine mesure, et ne serait-ce qu'en raison de l'architecture qui nous entoure. Et tout cela nous rappelle la Renaissance et nous rappelle ce 15e et 16e siècle qui nous intéresse. Alors, Monsieur Plégia, est-ce que vous pouvez nous décrire la ville de Cracovie et décrire la civilisation qui existait là à la fin du 15e siècle?
Cette place était à peu près la même à cette époque. Elle est assez énorme pour une place d'une ville moyenâgeuse parce qu'elle a 200 mètres de chaque côté, mais c'était déjà conçu ainsi à la moitié du XIIIe siècle. Cette Aldedra qui est devant de nous existait déjà, mais au commencement du XVIe siècle, elle n'avait pas encore cette folle renaissance que nous voyons maintenant. De l'autre côté de cette Aldedra s'est trouvé un hôtel de ville dont maintenant reste seulement un tour, parce que l'hôtel de ville, on l'a détruit au commencement du XIXe siècle. Alors, le 15e et le 16e siècle, c'est peut-être l'époque de la plus grande floraison de la ville de Cracovie. La bourgeoisie était riche, Cracovie était une ville commerçante, entretenait des relations avec l'une côté avec Silésie, de Wrocław et Prague en Bohémie, puisqu'il n'existait pas encore la Tchécoslovaquie, et de l'autre côté avec Kiev et les provinces russes du royaume de Pologne à cette époque.
En réalité, il y avait beaucoup de circulation, et aussi bien des biens et des marchandises que des idées.
Évidemment, les idées venaient plutôt de l'Italie, savez-vous, et au commencement du XVIe siècle aussi de l'Allemagne, avec la réforme religieuse qui a venu ici aussi au commencement du XVIe siècle, mais c'était déjà après que Copernic vint à Cracovie. Alors, pour la vie de la ville, il y avait naturellement l'université. L'université qui existait depuis plus que 100 ans, qui avait à cette époque aussi le temps de sa plus belle floraison. C'était une partie intégrante de la ville qui avait gagné beaucoup de cette grande foule d'étudiants qui venaient de toutes les régions de Pologne, que de pays voisins, de l'Hongrie, de l'Allemagne, etc., de Lituanie. Au commencement du XVIe siècle, le nombre d'étudiants était à peu près 3 000 chaque année.
Et quelle sorte de royauté était-ce?
Ce n'était pas une réalité absolue. C'était déjà la préparation de ce que c'était à l'époque ultérieure, alors d'une république de noblesse. Le roi était évidemment encore un grand seigneur, et il pouvait décider des choses d'État, mais il avait à compter avec l'opinion des grands seigneurs, et aussi, surtout au XVIe siècle, avec l'opinion de la petite noblesse qui avait ses représentants dans le parlement polonais qui s'appelait Sejm, et les petits alors concile de noblesse qui s'appelait Sejmiki.
Mais cette vie spirituelle, intellectuelle intense de Cracovie était tout de même assombrie par la lutte contre l'ordre teutonique. C'était un danger permanent.
Évidemment, c'était vers la fin du 14e et au 15e siècle, c'était un danger permanent pour la Pologne, pas tellement pour Cracovie, plutôt pour cette province qui s'appelait Grande Pologne vers Poznań, et pour la Mazovie, alors dans cette province de Pologne où se trouve aujourd'hui Varsovie. C'était un ennemi vraiment dangereux, car très bien organisé, et renforcé par les chevaliers de presque toute l'Europe qui venaient combattre contre les Lituaniens païens et qui ont été baptisés par leur prince Ladislas qui épousa notre reine Edwige au commencement du 15e siècle. Et cette union polono-lituanienne devint de sa part un grand danger pour l'existence de l'ordre teutonique sa puissance politique. Alors c'était ce roi Ladislas Jagiełło qui a vaincu les chevaliers teutoniques à Grunwald en 1410. son fils, Casimir dit Jagiellończyk, qui régna très longtemps sur Pologne, presque toute la seconde moitié du XVe siècle, devint maître féodal de l'ordre teutonique après la paix de Toruń en 1466.
L'histoire de Cracovie a été liée intimement au sort de la dynastie des rois Jagellon, dont nous avons retrouvé les tombeaux et les trésors dans la cathédrale royale de Wawel, sous la conduite du chanoine Chatarowski et de son neveu, l'historien Pavel. Tous deux sont les descendants des fameux princes qui ont joué un rôle important dans le destin de Cracovie et sont les fondateurs de la très riche collection artistique qui porte toujours leur nom. Alors là, nous sommes dans la salle des trésors de Stanislas. Qui était Stanislas?
Il était évêque de Cracovie à la fin du XIe siècle. Il était le premier évêque dont nous savons qu'il était d'origine de nationalité polonaise. Il avait un conflit avec le roi Boleslas, qu'il a tué près de l'autel de la cathédrale, et ensuite au XIIIe siècle, il était canonisé et il est devenu patron de Cracovie et aussi un des deux ou trois patrons de la Pologne. Dans un certain sens, vous voyez la tradition permanente, une des traditions avec lesquelles Copernic a dû être familier, et d'autre part, l'exposition que vous voyez ici est faite à cause d'un anniversaire de Saint Stanislas, c'est le 900e anniversaire de sa mort.
C'est la mitre, le casquet de Saint Stanislas. Les livres aussi, les livres, c'est la bulla canonisationis. Bulla, Innocentius.
1904.
Oui. Il était canonisé à Assisi, dans le tombeau, pas de Saint Stanislas, mais son successeur. On a trouvé ça. C'est une chasuble de la vie de Saint Stanislas. 16e siècle.
Donc ça, c'est à peu près les temps de Copernic, c'est le 16e
oui,
siècle,
oui,
n'est-ce pas?
Oui.
Elle
oui,
est assez étonnante, cette chasuble, parce qu'il y a en relief toutes les... ce ne sont pas des gravures, mais vraiment en relief. Comment est-ce qu'on peut obtenir...
Sculptées et après...
Et brodées.
C'est une chasuble, une des plus belles en Europe.
C'est peut-être important au point de vue de costumes, n'est-ce pas?
De costumes de l'époque, oui, ouais. De costumes. Nous avons eu alors encore le gothique, parce qu'en Occident, c'était déjà la Renaissance, en Italie, n'est-ce pas, l'Italie.
Oui.
Et ici, c'est encore en gothique.
Et ça correspond tout à fait à l'époque de Copernic.
Exactement. Oui. C'est daté 1504, comme vous voyez, n'est-ce pas?
C'est le retour d'Italie.
Donc c'est exactement le retour d'Italie.
Et en face, là, nous allons aller donc dans la cathédrale.
Nous sommes dans la porte d'entrée de la cathédrale de Cracovie et nous allons à droite voir le tombeau du roi qui était le roi au temps de Copernic. Nous entrons dans la chapelle royale. Et voici ici le tombeau qui était sculpté par le fameux maître de sculpture des temps de Copernic qui s'appelait Wittstwosch. Pendant des travaux techniques, on a trouvé dans la cave, il y a 5 ans, le corps du roi et de la reine Élisabeth dans la cathédrale, quelques mètres au-dessous du tombeau solennel. On a pu faire toutes les recherches qu'on fait généralement, n'est-ce pas, sur les restes des monarques. Et ensuite, on a fait un enterrement solennel, un second enterrement, disons-le, dans la cathédrale où nous sommes.
Ancien. Le primat de Pologne a fait l'enterrement du roi et de ça. Maintenant, n'est-ce pas, dans le milieu que nous avons actuellement. Le
oui, régime ça actuel. Montre la persistance des traditions.
Oui, c'est ça, c'est. Bon.
Ça, c'est le lieu, ça, c'est l'autel principal de la cathédrale, le lieu de couronnement de tous les rois de Pologne jusqu'au dernier Stanislas Auguste Poniatowski. Et nous sommes au milieu de la cathédrale devant l'autel portant le cercueil de Saint Stanislas. Son corps se trouve là.
Et véritablement, ce n'est pas...
Oui, on a fait toutes les... On a vérifié, les archéologues ont vérifié tout. Donc, il se trouve là et sa tête se trouve dans le trésor qu'on va voir si on trouve la clé. Donc, ça, c'est le tombeau du fondateur, du premier fondateur de l'université, du roi Casimir le Grand, qui était le dernier roi de la dynastie des Piastes, et qui a fondé l'université en 1364. C'était la seconde université de l'Europe centrale, après Prague, fondée en 1348. Nous sommes devant le tombeau de la reine Edwige, qui est morte en 1399, et qui a fondé, qui a laissé tous ses bijoux, tous ces trésors personnels pour renouveler l'université. Donc c'est le tombeau d'un des trois fondateurs de l'université. Merci. Où Copernic a étudié. Nous voici à présent devant le tombeau du roi Ladislas Jagiełło, en polonais Jagiellon en français, qui était le mari de la reine Edwige, le fondateur, le troisième fondateur, disons-le, de l'université, qui a réalisé le testament de sa femme Edwige et qui a renouvelé l'université en 1400.
C'est lors du renouvellement de 1400 qu'ont été introduites les mathématiques, l'astronomie, parce qu'au début c'était une faculté de droit surtout, je crois. Hein.
Au moment de la fondation, c'était une faculté de droit uniquement, pratiquement uniquement une faculté de droit. En 1400, c'était déjà une université ayant toutes les 4 facultés. Ouais. Et à la faculté des arts, la chaire de mathématiques et astronomie a été fondée par un bourgeois de Cracovie qui s'appelait Jean Stobner, probablement vers 1406. Donc, pendant les premières 10 années,
oui,
du fonctionnement de l'université. En 1454, un des professeurs qui s'appelait Rex, qui était astrologue et astronome lui-même, a fondé la chaire d'astrologie. Oui. Donc, à partir de cette date, il y avait deux chaires, une d'astronomie, une d'astrologie.
Thank you.
La bibliothèque Jagellon, malgré les guerres et les pillages, recèle des trésors inestimables et c'est là que nous avons admiré les manuscrits, l'imprimerie n'était pas encore inventée, qui ont servi à former la pensée de Nicolas Copernic. Mais quelles étaient donc les idées concernant l'astronomie en ce temps-là? Nous allons essayer de le savoir en feuilletant les précieux livres avec M. Jean-Pierre Verdet et Mlle Roginska, spécialiste de l'histoire de l'astronomie.
C'était la continuation de l'astronomie antique qui a trouvé sa forme la plus complète dans l'œuvre de Ptolémée. Et le Moyen-Âge n'était pas au niveau de Ptolémée, donc dans la forme pure telle qu'elle est présentée par Ptolémée, nous n'avons pas beaucoup d'astronomes qui ont été capables de suivre l'astronomie antique. Mais il y avait des abréviations, des simplifications de ce système. On l'a présenté sous une forme un peu moins compliquée. Mais c'était toujours ça, c'est-à-dire la Terre est dans le milieu de l'univers, et puis il y a les planètes qui l'entourent, qui ont le mouvement très irrégulier, et puis il y a la sphère des étoiles fixes, on les appelait fixes parce qu'elles avaient le mouvement régulier circulaire. Donc pour expliquer ces mouvements, surtout pour les mouvements des planètes, on employait un tas de cercles afin de rendre leur trajet, qui n'était pas une ligne circulaire, mais qui était une espèce de boucle, n'est-ce pas? Et donc, pour exprimer ça, il a fallu avoir tout un appareil mathématique, géométrique. Et la géométrie d'Euclide était suffisante pour Ptolémée. Après, on est arrivé à faire des autres constructions géométriques. Par exemple, les Arabes, Tusi, a trouvé une autre espèce d'exprimer ces mouvements.
Il n'était pas facile d'expliquer les mouvements apparents des planètes et des astres dans la situation où la Terre serait le centre.
C'était très compliqué, c'était même très très compliqué au point de vue de géométrie. On arrivait à des résultats plus ou moins exacts, mais ça ne satisfaisait pas du tout les astronomes. Surtout vers la fin du XVe siècle, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, n'est-ce pas?
Oui, c'est-à-dire que quand Copernic va arriver à Cracovie, finalement, il va bénéficier d'une tradition universitaire plutôt plus vivante que dans pas mal d'autres universités, oui. Si j'en juge par tout ce qu'on voit ici comme manuscrits liés à l'enseignement ou à la pratique de l'astronomie. Mais il va aussi arriver à l'université de Cracovie à un moment où on doute finalement des représentations de l'univers.
C'est-à-dire
oui, qu'on commence à se demander si cet arsenal de cercles imbriqués les uns dans les autres sont bien la bonne... La bonne façon de représenter les mouvements des planètes sur le fond de ciel.
Oui, exactement.
Alors qu'est-ce qu'il y a ici, par exemple? À partir de ce que nous voyons ici, on peut comprendre une partie de l'enseignement et une partie de la pratique astronomique à Cracovie la fin du XVe et au début du XVIe siècle?
Oui, mais j'ai ramassé ici les matériaux qui peuvent nous donner un coup d'œil sur le XVe siècle entier, en commençant par la fin du XIVe. Parce que la tradition, c'était la même. On peut dire qu'à partir de XIVe jusqu'à Copernic, pratiquement, c'était la même chose. Peut-être la précision changeait et augmentait. Par exemple, le développement des tables trigonométriques qui étaient plus précises, par exemple avec Regiomontanus. Donc, on arrivait à des résultats plus précis, mais c'était toujours dans le même courant, n'est-ce pas?
Oui, disons que les calculs étaient plus précis.
Oui.
Mais finalement, ils devenaient même trop précis pour la qualité des observations, certainement.
Ah oui, il y avait un décalage, n'est-ce pas, considérable entre ce qu'on a pu obtenir par les instruments et ce qu'on a pu calculer. Nous avons à la bibliothèque Jagellon une collection d'à peu près 200 manuscrits astronomiques. Cette collection-là n'était pas faite par hasard. Elle suit de très près les statuts de l'université. Et ce qu'on a exprimé dans ces statuts, c'est-à-dire quels traités, quels manuels doivent être suivis pendant les cours. Donc, nous avons, et ça reflète le niveau de l'enseignement. Puis, à part les textes à suivre, il y a, sur les marges, il y a des notes. Ces notes-là sont très importantes parce qu'elles expriment, elles expriment l'interprétation des manuels, n'est-ce pas? Parce que les textes étaient partout les mêmes. Et ici, il vaut, c'est une bonne occasion pour dire qu'en toute Europe, il y avait une unité,
Ah oui, il y avait une grande unité, c'est-à-dire que oui, dans toutes les grandes universités européennes, on retrouve les mêmes manuels de base, mais quand on regarde les notes marginales des professeurs, on a accès à l'interprétation et au mode d'enseignement, au choix des professeurs dans l'arsenal de ces manuscrits.
Oui, donc il y avait ces avantages pour les étudiants, par exemple, qui, quand ils se déplaçaient, ils se trouvaient partout chez eux, n'est-ce pas?
Oui, grâce à la langue latine.
Grâce à la langue latine et aux manuels qui étaient partout les mêmes. Donc, parmi les manuels, nous avons les éléments d'Euclide. La géométrie était enseignée selon les éléments d'Euclide encore au XXe siècle. Donc c'est...
Et ce sont des manuscrits.
Ce sont des manuscrits parce que nous sommes à l'époque où l'imprimerie n'existait pas encore. Le livre imprimé n'existe pas. C'est là, ici, par exemple, c'est un manuscrit de la moitié du XVe siècle. Voilà la trigonométrie.
Il est magnifique.
Il est magnifique, le dessin. Ouais. Et quand on pense qu'ils ont été exécutés à la plume d'oie, c'est vraiment... on se demande comment ils sont arrivés à faire des lignes tellement fines et précises.
Enfin là, on a...
Avec des enluminures, d'ailleurs.
Avec des enluminures, oui, c'était...
Et dans les marges, on voit les dessins géométriques.
Et les dessins géométriques.
Voilà, abondants, d'ailleurs.
Oui. C'était fait... Ce manuscrit-là, c'est un témoignage des études d'un monsieur qui s'appelait Jean de Holcouche, qui était bachelier en 1445... Donc, c'est à la fois le témoignage de l'enseignement à l'université à cette époque-là.
C'est-à-dire, c'est son exemplaire ou c'est lui qui a recopié cette...
Il prenait les cours, il a copié le texte de manuel ici, et puis ce qu'il disait le professeur pendant les cours, il le notait sur les marges. Vous voyez les marges qui sont remplies, les notes.
En quelque sorte, c'est son cahier de cours.
C'est son cahier de cours, oui, c'est ça. Et alors, à part ça, il y a... Aussi la théorie planétaire qui est ici, juste au début, voilà, accompagnée également de dessins.
C'est Sacrobosco, non?
C'est Gérard de Crémone.
Ah, Gérard de Crémone.
Ou de Sabionetto, oui. On ne sait pas exactement. Ici, c'est
Et la Terre est au centre.
Et oui, la Terre est toujours au centre.
Et le Soleil tourne autour.
Et le Soleil tourne autour. Voilà, c'est la...
Ça peut nous sembler tout de même étrange que l'on n'ait pas pu comprendre et voir avant que c'était autrement.
Ben non, c'est plus un problème de physique que d'insomnie. Ce qui paraît étrange, c'est qu'actuellement, nous sommes tranquillement dans ce bureau à regarder le manuscrit, alors qu'en réalité, on fonce à 30 km seconde dans l'univers. C'est pas une donnée immédiate des sens. Pas plus la rotation de la Terre que sa révolution autour du Soleil.
Mais alors, on peut se demander pourquoi il y avait des astronomes et pourquoi les princes payaient ces astronomes. À quoi servait-il?
Ça servait à beaucoup de choses, on peut dire, parce que tout d'abord, ce n'était pas seulement l'astrologie, mais c'était aussi l'astronomie tout court, parce que ça servait à mesurer le temps. C'était utile non seulement pour les princes, mais pour tout le monde. Il y avait la question de la mesure de temps pendant la journée, n'est-ce pas, à l'échelle journalière, c'est-à-dire la question des horloges. Et puis, il y avait la question du calendrier, c'est-à-dire d'établir la durée de l'année exactement, n'est-ce pas? Donc, à côté de cela, il y avait aussi la question de l'astrologie. C'était le résultat du fait qu'on concevait l'homme comme profondément lié à l'univers. Donc, dans ce contexte-là, tout ce qui se passait dans l'univers influençait l'homme, sa santé, son destin. Et même le destin des nations. Donc, les bons rois qui étaient très préoccupés pour l'avenir de leur pays voulaient savoir comment il faut procéder pour avoir l'avenir le meilleur possible.
Oui. Ceci dit, on peut peut-être quand même signaler que Copernic, selon toute apparence, ne s'intéressait pas à l'astrologie et n'a pas cru à l'astrologie. À la différence de son élève, enfin de son disciple, disons, Reticus, qui lui était un fervent d'astrologie, et en particulier d'astrologie au niveau de la société, c'est-à-dire Reticus s'intéresse apparemment plus au lien entre les mouvements des astres et le destin des grands empires, que ce soit l'empire musulman ou la montée de la chrétienté, etc., enfin, au lien entre l'histoire des peuples et l'astrologie. Mais effectivement, il faut signaler que les princes avaient des motivations purement astronomiques, et en particulier évidemment le calendrier, qui était au cœur des débats astronomiques, alors au temps de Copernic, mais déjà avant.
Et puis c'était aussi l'Église qui était fortement intéressée à cause de l'établissement exact de la date de Pâques, ce qui était considéré très important que la fête de Pâques soit célébrée dans un temps convenable astronomiquement, n'est-ce pas ?
Oui, astronomiquement parlant.
Oui.
Mais alors, est-ce que les cours que l'on donnait étaient des cours d'astrologie et d'astronomie mélangés ou bien c'était le même cours ? Les astrologues et astronomes sortaient des mêmes classes.
Et ça commençait par les mathématiques. Après, c'était l'astronomie, parce que c'était une base. On considérait que si l'astronome n'est pas capable de recalculer les tables pour l'endroit où il se trouve, les prédictions, oui. Et puis les prédictions astrologiques ne peuvent pas être justes. Donc, les tables étaient calculées au début. Pour le méridien de Tolède ou de Paris, par exemple, ou de Vienne, il a fallu les recalculer pour le méridien de Cracovie. Ce point. Non.
Oui, c'est-à-dire que pour résumer, si vous voulez, si on n'est pas mathématicien, on n'est pas astronome, et si on n'est pas astronome, on n'est pas astrologue. Donc, effectivement, les astrologues et les astronomes avaient la même formation de base. Et beaucoup d'astronomes étaient également astrologues. Mais disons que ça n'était pas une loi, que tous les astronomes n'étaient pas astrologues.
Mais je suppose que l'on avait la possibilité d'observer des phénomènes cosmiques, planétaires, que l'on pouvait regarder les astres et en déduire un certain nombre de lois. Alors par exemple, les mouvements des planètes et puis les comètes, est-ce qu'on les observait ?
Oui, alors effectivement, les astronomes ne se contentaient pas de travailler sur le calendrier, de calculer la date de la fête de Pâques et de dresser des horoscopes pour les princes ou pour les grands de ce monde. Ils s'intéressaient au ciel pour le plaisir de s'intéresser au ciel, qu'en particulier, vous avez ici par exemple un manuscrit qui vous donne une prévision d'éclipse. C'est une éclipse qui devait avoir lieu en quelle année alors ?
Oui, en 1409, mais qui était prédite en 1407 déjà, n'est-ce pas ? Et calculée, et se basant sur les tables des éclipses de Jean de Lignières.
Ah, un astronome parisien. Là, on est devant un calcul d'éclipse donc, qui est fait à partir des tables d'un nommé Jean de Lignières, qui est le grand astronome français du Moyen-Âge, disons.
On a fait des analyses critiques de ce texte et parfois on est arrivé à conclure que ces prédictions étaient faites avec une assez grande exactitude. Par exemple, on se trompait d'un quart d'heure seulement.
Oui. Il faut dire que pour prédire les éclipses, qu'est-ce qui intervient dans le phénomène des éclipses ? Il y a trois corps qui interviennent, c'est la Terre, la Lune et le Soleil. Or, les mouvements de ces trois corps, finalement, sont, enfin, du point de vue purement cinématique, que l'on se passe en système héliocentrique avec le Soleil au centre du monde, ou en système géocentrique avec la Terre au centre du monde, finalement, c'est pas très important. Ça n'a pas les mêmes conséquences sur les apparences que le géocentrisme et l'héliocentrisme pour les mouvements planétaires. Et d'ailleurs, le prestige des astronomes était lié à cette prédiction des éclipses. C'est-à-dire que c'est ce qui impressionnait les gens et qui continue d'ailleurs parfois à les impressionner.
Mais en réalité, c'était une astronomie de position. Donc on calculait seulement les mouvements des astres ou les mouvements apparents et on ne fait pas véritablement d'observation comme on a pu en faire de planètes parce qu'on n'avait pas la lunette.
On ne fait pas réellement d'observation et ça n'est pas qu'un problème de lunette. C'est un problème de tradition perdue et qui ne reprendra qu'avec Tycho Brahe, donc la génération qui vient tout de suite après Copernic. On voit très bien dans le livre, dans le De Revisionibus de Copernic, on voit très bien ce qui était observé à l'époque. On disposait de tables, mais rapidement, enfin plus ou moins rapidement, suivant la qualité des tables, il y avait divergence entre les positions annoncées pour la planète Jupiter, par exemple, et puis les positions réellement observées sur le fond de ciel, c'est-à-dire sur le champ d'étoiles, n'est-ce pas? Et on faisait de l'observation pour rectifier les tables. Copernic, par exemple, dit « j'ai fait 3 observations de l'équinoxe, et puis je prends celle de 1525 parce qu'elle me paraît être la meilleure. » Tandis que du temps d'Hipparque, par exemple, c'est-à-dire du temps de l'astronomie grecque, on pense qu'un homme comme Hipparque observait chaque nuit, observable, disons évidemment, si le ciel était couvert, encore que... En Grèce, il ne le soit pas souvent. Mais on retrouve cette tradition réelle d'observation systématique d'une série d'astres toutes les nuits où ces astres sont visibles. Ça ne se retrouve que tout de suite après Copernic, c'est-à-dire avec Tycho Brahe. Et ça débouche après sur les grandes découvertes de Kepler, etc. Mais du temps de Copernic et avant Copernic, on observe. Mais on ne peut pas parler d'observation systématique, et on ne peut pas non plus parler d'observatoire au sens où justement, par exemple, Tycho Brahe construira un observatoire gigantesque avec une dizaine d'assistants, des ateliers de menuiserie, des salles de calcul, enfin vraiment un observatoire au sens quasiment moderne du terme, oui. Et pourtant, avant l'invention de la lunette, mais avec des instruments beaucoup plus soignés, beaucoup plus grands, donc plus précis, puisque finalement, qu'est-ce que c'était que tous ces instruments? C'était des fusils à étoiles.
On visait.
C'était plus ou moins sophistiqué du point de vue d'articulation, de la lecture des angles, mais il s'agissait de viser une étoile avec une baguette et deux repères.
Quelle pouvait être la représentation du cosmos dans la tête de Nicolas Copernic avant qu'il ne fasse ses études d'astronomie? Qu'en pensez-vous, monsieur Verdet?
Écoutez, Copernic, l'image du monde qu'il devait avoir en tête, c'était, à coup sûr, l'image du monde que tous ses contemporains avaient. Et non seulement ses contemporains, c'est une image du monde qui régnait sur la pensée occidentale depuis 14 siècles. C'est-à-dire depuis que Ptolémée, dans un grand ouvrage qui nous est parvenu sous le nom d'Almageste, qui nous est parvenu par les Arabes, sous ce nom d'Almageste, et qui initialement s'appelait la grande syntaxe mathématique, eh bien, cet ouvrage qui présente le monde géocentrique, que donc devait connaître, enfin, qui devait prédominer dans la tête de Copernic, a régné pendant 14 siècles, puisque c'est un livre, l'Almageste a été écrit vers 140 après Jésus-Christ. Alors c'est assez facile à résumer finalement, c'est un monde d'abord de dimension modeste, totalement clos, dans la sphère des étoiles qu'on appelle la 8e sphère. Ces étoiles sont fixes, alors il y a une petite ambiguïté parce qu'on les appelle toujours les étoiles fixes, mais on les appelle les étoiles fixes parce qu'elles gardent toujours les mêmes positions les unes par rapport aux autres. Et donc à l'époque, on les appelait les étoiles fixes déjà, pour cette raison-là. Mais cette sphère tournait sur elle-même et faisait un tour en 24 heures. C'est-à-dire que les étoiles fixes tournaient. Et puis au centre du monde, vous aviez la Terre totalement immobile. Alors quand vous allez de la Terre à cette 8e sphère, sur laquelle finalement les étoiles sont quasiment incrustées, c'est-à-dire que les anciens croyaient que toutes les étoiles étaient à la même distance de la Terre, donc incrustées dans cette sphère qui tournait en 24 heures sur elle-même. Alors quand vous allez de la Terre
vers ces étoiles. Vous rencontrez d'abord ce qu'on appelle les planètes inférieures, c'est-à-dire Mercure et Vénus, puis le Soleil, qui fait le tour de la Terre en un an, puis entre le Soleil et les étoiles, ce qu'on appelle les planètes extérieures, c'est-à-dire Mars, Jupiter et Saturne. À l'époque, on ne connaissait que les cinq planètes visibles à l'œil nu, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Bon, évidemment, excusez-moi, entre les planètes inférieures et la Terre, vous avez la Lune. Ça, on a compris dès le début de l'astronomie que la Lune était un satellite de la Terre. Enfin, en tout cas, que la Lune tournait autour de la Terre. Donc, pour résumer, les deux grands points, c'est d'abord un monde parfaitement clos, deux dimensions modestes et une Terre rigoureusement immobile au centre de cet univers.
Monsieur Verdet, et quel était le bouillonnement d'idées dans la tête, dans l'esprit de Copernic au moment où il faisait ses études? Qu'est-ce qui a pu l'amener à concevoir un monde tout à fait différent avec une idée tout à fait neuve et qui allait à l'encontre de tout ce qui était admis?
C'est la question essentielle, mais qui est très embarrassante parce que on a peu de documents de Copernic, c'est-à-dire que on n'a pas de correspondance scientifique, on n'a pas de brouillon de son grand ouvrage, on a très peu de choses. Mais on peut quand même formuler une réponse plausible à partir de ce que Copernic dit lui-même dans sa préface à son grand ouvrage, Le De Revolutionibus. Parce que finalement, Copernic, il va découvrir l'astronomie à Cracovie, parce que c'est pas à Torun, au cours de ses études élémentaire, qu'il a pu découvrir l'astronomie. Qu'est-ce qu'on peut lui enseigner finalement? Qu'est-ce qu'il va rencontrer à la faculté dans l'enseignement de l'astronomie? Il va rencontrer des tables de position. Il va rencontrer probablement des commentaires de l'Almageste, à coup sûr. C'est-à-dire des commentaires de l'astronomie de Ptolémée. Il est probable également qu'il entende des lectures de commentaires du Décaélo d'Aristote. Et Copernic résume assez bien la situation, donc dans son introduction, dans sa préface à son grand ouvrage, en disant que dès le début, finalement, il a été choqué. Il a été choqué par quoi ? Il a été choqué par le fait que si on a en face de soi qu'une seule cosmologie à l'époque, qu'une seule vision du monde, c'est-à-dire une vision géocentrique, un monde totalement centré sur une Terre totalement immobile, ça c'est le point de départ. Mais qu'est-ce que rencontre Copernic dans l'astronomie pratique? C'est-à-dire que, qu'est-ce que j'entends par astronomie pratique? Il s'agit d'avoir des tables, ou des graphiques, mais en général c'était des tables. Il s'agit d'avoir des tables qui donnent les positions des astres à un moment donné. Alors, toutes ces tables, tous ces traités d'astronomie partent de la même idée de base, un univers géocentrique. Malgré ça, chacun, finalement, essaie de rendre compte des apparences, c'est-à-dire de ce qu'on voit chaque nuit sur le fond de ciel. Il s'agit d'en rendre compte à partir de ce présupposé d'une Terre immobile au centre de l'univers. Et ce qui choque Copernic, d'après lui-même, dès le début, c'est la diversité des adaptations, si vous voulez, des apparences à ce modèle ptoléméen.
Qui ne collait pas à la réalité.
Qui ne connaît pas la réalité, pour des raisons observationnelles souvent en réalité. Mais Copernic emploie une image très amusante, il dit « Finalement, quand on regarde ce monument qu'est l'astronomie, on n'est pas face à une belle statue, on est face à une espèce de monstre, tout se passe comme si un sculpteur avait trouvé le pied d'un homme, la main d'une femme, la tête d'un cheval, et qu'il ait essayé de fabriquer une statue à partir de ces éléments disparates. » C'est l'image que Copernic emploie lui-même. Donc peut-être que dès le début de ses études, il a été choqué par cette espèce de fourre-tout. Et peut-être déjà pense-t-il à un univers plus harmonieux que celui qu'il a devant les yeux.
Plus cohérent.
Plus cohérent. Il emploie le terme de symétrie, lui, donc de symétrie. Mais pas symétrie au sens géométrique du terme. Il n'y a pas d'axe de symétrie dans le système de Copernic, pas plus qu'il n'y a d'axe de symétrie dans le système de Ptolémée. C'est symétrie au sens d'harmonie. un monde plus harmonieux. Et effectivement, je trouve personnellement que le système de Copernic, qui n'est pas basé sur des observations nouvelles, parce que du temps de Copernic, on ne fait que de la cinématique. C'est-à-dire qu'on se contente d'étudier le cheminement des astres. Et ça, c'est vrai que finalement, son système n'est pas plus facile à manipuler que celui de Ptolémée. Mais il s'en dégage une certaine harmonie, une certaine cohérence, parce que, en particulier, toutes les planètes, y compris la Terre, ont exactement le même comportement, enfin, ont exactement le même statut cosmologique, bien que, sur le fond de ciel, elles aient des comportements essentiellement différents. Je pense au comportement de Mercure et Vénus, qui est très différent de celui de Mars, Jupiter et Saturne, parce que les deux premières planètes ne s'éloignent pas du Soleil, ne peuvent pas s'éloigner du Soleil, parce qu'elles sont entre nous et le Soleil, alors que les autres peuvent s'éloigner du Soleil. Et bien, dans le système de Copernic, malgré ce comportement différent, dans l'astronomie de Copernic, elles ont exactement le même statut cosmologique. Alors que chez Ptolémée, elles avaient des statuts cosmologiques différents pour rendre compte d'un comportement différent.
C'est ainsi qu'il va trouver, quelques années plus tard, un système cohérent, c'est-à-dire un soleil au centre de l'univers.
C'est-à-dire qu'il va...
De notre univers, c'est-à-dire de notre système.
C'est-à-dire que ça paraît anodin, l'action de Copernic, c'est simplement dans cette grande machinerie, parce que tout ça tourne sur des sphères. Il y a vraiment, c'est une machinerie extraordinaire d'imbrication de cercles, de sphères, d'excentriques, d'épicycles, des choses comme ça. Eh bien, dans cette grande machinerie, montée par Ptolémée, disons, et perfectionnée par ses successeurs, Copernic, il va se contenter de faire un échange. Il va prendre le Soleil, qui galope autour de la Terre, et il va le ramener au centre du monde, et il va mettre la Terre à la place du Soleil. Donc, il fait simplement une permutation entre deux corps. Mais on verra que les conséquences en seront absolument extraordinaires.
C'était Un homme, une ville, sur les traces de Copernic à Cracovie, par Nicolas Skrotsky, premier volet d'une série de 3 émissions, diffusée pour la première fois sur France Culture le 31 juillet 1978. Vous pouvez le réécouter ou le télécharger à la page des nuits sur le site franceculture.fr.